étoiles avec Pulsan, l'émission radio de la Société d'astronomie de Nantes. À la découverte de l'univers, le monde étrange des étoiles. Bonsoir à toutes et tous, vous êtes en direct sur Alter Nantes, 98.1 FM à Nantes, 91 Saint-Nazaire, c'est Pulsan, l'émission de la Société d'Astronomie de Nantes. Ce soir, nous allons vous parler de la construction des grands miroirs, comment les grands miroirs des professionnels sont-ils construits et conçus. Nous allons aussi vous poser une question et surtout vous donner la réponse, pourquoi le ciel est-il bleu ? La question peut paraître bête, mais vous allez voir que la réponse n'est pas si simple que ça. Ensuite, nous vous parlerons aussi de la conférence d'André Brahic, qui vient à Nantes mercredi prochain, le 6 juin, on en parlera tout à l'heure. Et on vous parlera de plein d'autres petites choses dans l'émission. Pensez bien que nous allons vous donner lors de l'émission le numéro de téléphone d'Alter Nantes, que vous pourrez appeler pour répondre à la question que Daniel vous posera tout à l'heure, ou que je vous poserai. Et avec ça, vous gagnerez des places gratuites pour la conférence de mercredi prochain à Nantes, d'André Brahic.
Mercredi le 6.
Le 6, oui, excuse-moi, t'as raison, on est que lundi. Il fait beau, le ciel se dégage la nuit, profitez-en pour regarder les étoiles, c'est Pulsan. À toi Daniel.
Alors voilà, tu parlais des miroirs des professionnels, alors les gens peuvent se demander de quel professionnel féminin s'agit-il, de quel miroir ? Eh bien, il s'agit des miroirs de télescope et ils ne se regardent pas dedans. Hein. Et ils regardent les étoiles, et qu'est-ce qu'ils regardent ? En fait, ils font du voyeurisme stellaire, ils vous racontent journellement le Loft Story stellaire. Voilà.
Voilà, pour ne pas faire de pub à une émission qu'on ne regarde pas.
Non, je ne fais pas la peine. Alors, je vais vous parler rapidement des 30 ans de la SAN. Alors, bien sûr, c'est l'année de nos 30 ans, et cet anniversaire s'effiloche tout le long de cette année, puisque nous sommes nés en 1971, au printemps. Il y a eu plusieurs épisodes qui ont émaillé cette merveilleuse épopée, aventure.
On en parlera normalement dans une émission, on fera un bon quart d'heure.
Tout à fait, c'est pour ça que je ne détaille pas, c'est juste pour vous dire que nous avons fêté cela. On a marqué le coup samedi dernier, au château de Clermont, de Louis de Funès, pour marquer l'événement. Et nous avions d'ailleurs invité tous les anciens à cette occasion. Et on a aussi fait un petit point sur notre histoire. Ça nous a amené à faire des recherches, qu'on vous racontera bien sûr. Nous avions aussi invité un autre ancien qui est Olivier Sauzereau, qui a travaillé sur les observatoires, qui a même commis un livre là-dessus, qui est très bien fait. Et j'en profite aussi pour signaler que il y aura le 8 et 9 juin prochain, c'est-à-dire vendredi et samedi, un colloque à Nantes sur les observatoires.
C'est pas les prochains comme d'habitude, c'est ceux de la semaine d'après.
C'est vrai. 8 et 9 juin, j'ai quand même précisé.
T'as raison.
Voilà. Et vendredi 8 et samedi 9 juin, alors ceux que ça intéresserait encore, hein, c'est quelque chose qui est assez ouvert, qui a été lancé par le centre François Viette de l'université de Nantes.
C'est un centre d'histoire en fait des sciences.
Hein. Histoire des sciences, François Viette étant un astronome, plutôt un mathématicien vendéen, et qui est assez célèbre maintenant dans le monde des sciences. Donc voilà. Ceux que ça intéresse peuvent toujours aller sur internet, j'ai pas l'adresse, mais vous cherchez Centre François Viette avec un V ou colloque sur les observatoires, enfin bref, maintenant avec ce qu'on appelle les outils de recherche plutôt, voilà. Autrement, je vous parle rapidement, enfin non, plutôt je vous annonce à nouveau la conférence d'André Brahic qui sera un événement exceptionnel, hors cycle évidemment, donc hors abonnement, etc., le mercredi 6 juin au Bretagne à 21h. Alors ça, c'est une grande conférence, on vous en dira plus tout à l'heure, évidemment, avec un grand personnage qui est de plus en plus connu maintenant. Nous en sommes très heureux, qui est André Brahic.
Alors pour ceux qui ne veulent pas payer leur place, il va suffire de répondre à la question que je vais vous dire. Vous téléphonez au 02 40 93 26 62. 02 40 93 26 62, vous répondez à la question. Combien y a-t-il de planètes dans le système solaire qui possèdent des anneaux ? Combien y a-t-il de planètes dans le système solaire qui possèdent des anneaux ? Vous téléphonez, si vous n'avez pas la bonne réponse, vous raccrochez, vous pouvez réessayer après. Il n'y a pas d'élimination, vous n'êtes pas obligé d'avoir la bonne réponse dès le départ. Donc, vous connaissez le nombre de planètes, vous n'avez qu'une chance sur 9 pour trouver la bonne réponse.
Ah non, ils ont un certain nombre de combinaisons. Hein. Sur 9 planètes, il y en a X.
On ne demande pas les noms, on demande juste le nombre. Donc,
Ah oui,
ça c'est
oui,
simple.
Alors c'est drôlement simple.
Hein, on a fait une question
simple. Alors, on va avoir dérangé plein de gens qui répondront bien. Hein. On vous pose pas la question à l'envers, combien y a-t-il d'anneaux qui ont des planètes, parce que là, je crois que...
La réponse est assez compliquée.
La réponse est compliquée, oui, parce que...
Donc vous répondez à cette question d'anneaux, hein, en téléphonant, et vous allez gagner des places pour la conférence en hébraïque que Daniel vous présentera tout à l'heure plus en détail, pour mercredi 6 juin.
Alors, autre nouvelle, une petite nouvelle, bien sûr, c'est l'observation mensuelle de la Lune qui se fait dans le cadre de l'exposition sur les météorites au Muséum d'Histoire Naturelle. Alors, cette observation de la Lune n'aura pas lieu au Muséum d'Histoire Naturelle, elle aura lieu derrière le planétarium sur la butte Sainte-Anne. Ils éditent un petit journal qui s'appelle La Vie de la Butte, hein, cherchez l'erreur.
Bon. Ouais.
La butte Sainte-Anne, c'est rue des Acadiens maintenant, c'était l'ancienne rue Le Houédé. Rue des Acadiens.
Bah, c'est le planétarium. Hein.
Planétarium, et derrière, il y a un square qui s'appelle le square Moisan, avec les cadrans solaires, etc. Et puis, il y a Sanisette à chien, juste avant. C'est comme ça qu'on repère.
C'est comme ça.
Si vous avez une petite envie, ne vous inquiétez pas. Il n'y a pas beaucoup de chiens qui vont là. Mais peut-être que les gens y vont. Enfin, bref, c'était mon petit quart d'heure de.
de poésie du l'anime.
Facilité habituelle.
Voilà.
Donc, c'est samedi, le 2 juin.
Donc là, c'est samedi qui vient.
Qui vient. Et alors, attention, il n'y a pas vraiment d'horaire, hein.
C'est à la tombée de la nuit.
À la tombée de la nuit. Alors, quand ça vous chante, il y aura des télescopes avec nos amis du planétarium, des gens de la société astronomique, qui seront vos guides pour ce tour du ciel, tour de la Lune.
Avec, vous rappelez la rigueur que c'est gratuit quand même?
C'est gratuit, bien sûr.
C'est quand même une chose importante.
Les astres sont là pour tout le monde, hein. C'est formidable ça.
Alors, il y a en fait, entre guillemets, c'est une soirée où il y a, entre guillemets, rien de spécial à voir, pas plus que d'habitude, ou pas plus que le premier,
on entrera autre
Par
chose.
Contre, on va centrer sur la Lune.
Oui.
Et puis sur tous les autres objets qu'il y aura à voir dans le
voilà, s'il y a autre chose à voir, on va pas vous le cacher évidemment, ça serait difficile.
Ça serait dommage.
Et ça serait dommage vu que nous aurons de très beaux instruments. Voilà. Y a-t-il d'autres nouvelles, chers amis?
Non, ça a l'air de non, ça a l'air de bon.
Voilà. C'est calme.
Ça c'est calme. Donc on va commencer par
nous sommes à Langui.
À Langui, la première petite pause musicale, c'est une originalité. La petite pause.
Ah.
C'est un sketch, alors vous allez écouter. Profitez-en parce que ça ne dure pas très longtemps. Il faut bien écouter, vous allez comprendre pourquoi on passe ça à Pulsan.
J'ai vu la télé. Dis donc. La télé, ça tombe, hein. Vers le bas. Non, je dis ça pour le cas où. Non, parce que ça, c'est depuis que Newton il a découvert la gravitation universelle. Bah oui, parce qu'avant, les pommes, elles étaient cons. Elles savaient pas où tomber, les pommes, tu comprends? Ah bah, il y a des pommes qui tombaient vers le haut, d'autres sur les côtés. C'était un bordel avant Newton. Ah bah, avant Newton, tu passais à côté d'un pommier, tu faisais gaffe, toi. Pas te prendre une pomme, toi. Puis après, il aura bien expliqué à toutes les pommes, hein. On peut dire, maintenant, elles tombent pratiquement toutes vers le bas. Et puis, c'est plus facile pour nous pour les ramasser, il faut reconnaître. Bah oui, parce que va ramasser une pomme qui tombe vers le haut, toi. Ah bah, lave-la barrée, la pomme. Hein. Tu peux courir, hein. Ou alors, il faut être là juste quand elle se décroche, toi. Ouais. Sinon, il faut l'attendre avec une épuisette, comme ça, toi. Ouais. Oui, ou alors, faut envoyer un copain en deltaplane, et puis... Bon, quand il arrive au-dessus, toi, tu secoues un peu le pommier, mais enfin, bon, bah, l'autre, faut qu'il conduise, quand même, et puis... Voilà les pommes qui arrivent, alors bon... Puis ça peut être dangereux si ça perce le truc. Bon, je vais m'arrêter là. Ah.
Comme a dit Jean-Marie Billard, c'était son sketch sur les pommes, je vais m'arrêter là. Donc c'est pas totalement faux, bon, à part que Newton, il n'aura pas expliqué aux pommes, c'était ça avant, mais...
Non, mais c'est, il ne croit pas si bien dire Jean-Marie Bigard, parce que autrefois dans la physique d'Aristote, on pensait que les objets lourds tombaient effectivement vers le bas, et recherchaient d'ailleurs la position de repos qui était celle du centre de la Terre, et qui était le repos, puisque la Terre était censée être immobile. Enfin, tout ça, c'est assez cohérent dans une espèce de
délire, ouais, tout à fait.
On peut pas dire, non, c'est ce qui arrive lorsque on fait des sciences sans faire, évidemment, l'expérience. Par contre, donc Bigard est quelqu'un, c'est ce que je voulais dire ça, c'est quelqu'un d'assez cultivé. Hein, c'est un monsieur qui a beaucoup de connaissances, mais qui est très marrant, puis surtout là, qui mâche pas ses mots. Juste une petite anecdote, je fais de temps en temps des cours à Paris, et là on mange à midi dans un espèce de petit troquet, hein, rue des Pyrénées, puis un jour j'entends un type qui rentre comme ça, « Oh, ça va, puis très très marrant, puis saluant tout le monde, s'installant avec... il était là, en compagnie, puis c'était Bigard. Puis bon, bah, tout le monde le connaissait, là, puis il était chez lui. Alors, c'est quelqu'un qui est dans la vie très agréable, mais en même temps, il était très bosseur, hein, avec ses petites lunettes, là. C'est pas pour rien qu'il nous fait rire, hein. Il y a de la matière.
Tout à fait, donc c'est pour ça que ça passe à Pulsanne, hein. Les pommes, ils tombaient vers le haut, avant Newton.
Exactement. D'ailleurs, c'est bien ça, les sciences. C'est avant les sciences, les choses faisaient n'importe quoi. C'est l'homme qui a mis de l'ordre dans la nature, c'est bien connu. Hein.
C'est bien connu, oui.
Voilà.
On va maintenant aborder un tout autre sujet. On ne va pas parler des pommes, on va passer des choses qui tombent vers le bas, à la rigueur, c'est les miroirs des télescopes, mais ils évitent de les faire tomber. Ça va être Dominique Ménel qui va nous parler de la construction des grands miroirs de télescopes. Alors Dominique, on a déjà, nous, dans les émissions précédentes, parlé un peu de la construction des miroirs d'amateurs, comment ça se faisait à la main, etc. Donc on suppose que les télescopes de plusieurs mètres de diamètre, non, leurs miroirs plutôt, ça se fait pas exactement à la main.
Oh, bah ils sont faits presque à la main aussi, mais enfin la différence, qu'on va quand même céder d'un petit peu de matériel, parce qu'on va commencer à remuer des masses qui sont sensiblement plus importantes.
Ça se fait avec des grandes mains, peut-être, non ?
Des grandes mains. Des grandes mains, puis sont carrément même des robots. Maintenant, on a remplacé la main par le robot, comme dans beaucoup de cas dans l'industrie. Mais je reviendrai quand même un instant sur ce qu'a dit Thierry. Les miroirs de télescope, il y a quand même des choses qui tombent dessus. Alors, est-ce que ça tombe vers le bas? Est-ce que ça tombe vers le haut? Je voulais parler des photons, si tant est que les photons existent.
Ben les photons existent. Ce qui n'existe pas, ce sont des particules de lumière. On va en dire un petit mot.
Donc ces photons ou ces ondes électromagnétiques qui constituent la lumière au sens très très large du terme, puisque quand on parle d'astronomie, on ne parle pas que de la lumière visible, mais également des lumières qui sont un petit peu à la marge, hein, des ultraviolets, des infrarouges.
Alors, je pense que maintenant tout le monde connaît les infrarouges, que dans Love Story, ils utilisent des caméras infrarouges, c'est vraiment un intérêt. Parce que pour filmer ce qui se passe la nuit, il y a des choses intéressantes.
J'avais pas remarqué ce point de détail.
Mais non, mais c'est pour les gens qui ne connaîtraient pas l'infrarouge, ça permet de voir, entre guillemets, des choses qui sont invisibles à l'œil nu.
C'est dommage que ça ne transperce quand même pas les couvertures, ce à quoi tout le monde
aimerait.
Ouais.
Il est des mythes qui subsistent comme ça.
Dans les couvertures.
Dans les couvertures.
Des mythes dans les couvertures. Ah, ben d'accord.
Alors, l'épopée des grands miroirs de télescope, on peut dire que ça a commencé avec le début du siècle, puisque jusqu'à la fin du 19e, on était plutôt axé sur la construction d'optiques à base de lentilles. On fabriquait plutôt des lunettes que des télescopes. Malgré tout, ça signifie pas que les télescopes n'aient pas existé bien avant, puisque le premier qui a été mis au point, c'était Newton, dont on a parlé
tout à l'heure,
il y a
avec ses
3 minutes avec ses pommes. Et Newton est le premier à avoir construit un télescope, c'est-à-dire un instrument d'observation qui possédait non plus une lentille en verre transparent, mais un miroir qui était, à cette époque-là, un miroir en bronze poli.
Alors, on peut peut-être donner une petite précision à propos du mot télescope, parce que les Anglais continuent à dire télescope réfracteur pour parler des lunettes. Les lunettes, c'est des longues vues, donc vous avez une lentille, c'est comme une moitié de jumelle, hein, vous avez une lentille au bout, ça fait une image au foyer, puis là vous avez une loupe. Le télescope, lui, l'intérêt, c'est plus une lentille, comme tu l'as dit, hein, c'est un miroir parabolique, mais il peut être d'une autre forme, mais il envoie l'image au foyer et c'est là qu'on remet une loupe. Alors évidemment, l'intérêt de, c'est pour ça que Newton, vous savez que Newton avait, donc c'est le monsieur de la pomme, hein, qui avait décomposé la lumière. Et quand on prend une lentille, on s'aperçoit que la lumière, elle n'est pas décomposée pareil au milieu.
On observe à la marge plutôt des objets, on observe des franges colorés, rouge, bleu, qui sont dus justement à la décomposition de lumière quand cette lumière traverse une lentille.
Ce qui est un inconvénient pour les observations
fines. Tout à fait, d'où l'intérêt d'utiliser à la place d'une lentille, d'utiliser un miroir, puisque dans ce cas-là, la lumière ne traverse pas le miroir, bien évidemment, elle est réfléchie, et on élimine au moins en partie quelques-uns de ces défauts, ou quelques défauts qui sont dus à la diffraction et à la diffusion de la lumière quand elle traverse un milieu transparent.
C'est ce qu'on appelle l'aberration chromatique. Hein.
En sachant qu'elle existe quand même encore un petit peu avec les miroirs, on verra ça. La nécessité de construire des grands miroirs. Pourquoi on a fait des grands miroirs? Ben parce que, quelque part, les lois de l'optique, elles sont ce qu'elles sont, et on s'aperçoit par le calcul, j'entrerai pas dans le détail, que plus le diamètre du miroir est élevé, plus la résolution, c'est-à-dire la dimension des objets qu'on peut observer avec un instrument construit avec un tel miroir, plus ces objets peuvent être petits.
Ça s'appelle le pouvoir séparateur.
C'est le pouvoir séparateur. Sachez quand même qu'il existe au moins deux différences importantes entre le miroir que vous pouvez utiliser tous les jours dans votre salle de bain et puis le miroir d'un télescope. Tu saurais nous dire quelles sont ces différences?
Ah oui, parce que moi j'étais confronté, puisqu'on a argenté les miroirs de télescope à la SAN, effectivement. Lorsque vous achetez un miroir, vous voyez dedans, et ce qui réfléchit votre image, c'est une couche d'argent. C'est de l'argent, complètement, ce qui est sur les petites cuillères, mais qui reste carrément, enfin, à 100% brillante, parce qu'elle n'est pas oxydée, parce qu'elle est protégée par le verre, justement.
Voilà, donc ça va être la première différence entre un miroir de salle de bain et un miroir de télescope.
C'est clair.
Votre miroir de salle de bain est argenté sur la face arrière du miroir.
Derrière.
On met une couche de protection, une couche de peinture, quelque chose qui va...
C'était de l'étain avant, et on disait, c'est pour ça qu'on parle de teint.
Voilà. Et ce qui va donc protéger cette couche qui est très fragile. À la différence... sur un miroir de télescope, évidemment, on ne veut pas que la lumière traverse le verre pour ne pas induire les défauts dont on a parlé tout à l'heure. Alors la couche métallique, je vais parler volontairement de couche métallique parce qu'on verra qu'il n'y a pas que l'argent qui peut être utilisé comme matériau réfléchissant. Mais la couche métallique est à la surface. C'est la première couche que la lumière va rencontrer. Dans un miroir de télescope, il est actuellement en verre, mais il pourrait être en n'importe quelle autre matière qui aurait des caractéristiques suffisantes.
Voilà. Mécanique, surtout.
Mécanique.
C'est ce qu'on cherche.
La surface que va rencontrer la lumière, c'est la surface argentée directement.
Alors c'est juste un mot pour ces miroirs en verre, puisqu'avant, ils étaient, comme tu l'as dit, en métal. Mais quand on polissait un métal, où il n'y avait pas de verre derrière, il fallait, à chaque fois qu'on le rénovait, ça faisait des défauts infimes qu'il fallait recorriger à chaque fois. Alors que avec le verre, on a un matériau extrêmement dur, inaltérable, sur lequel on peut déposer tout simplement une couche d'argenture ou d'un autre métal, métallisation, et lorsqu'il s'agit de le rénover, on enlève cette couche, on en remet une autre. Ça date, ces premiers miroirs en verre ont été utilisés par les Français, c'était Foucault.
C'est Foucault, le premier qui a eu l'idée d'argenter un miroir.
Et le plus grand des télescopes qui faisait un mètre de diamètre en verre, le premier très grand télescope en verre, a été utilisé par un Anglais qui s'appelait William Lassell sur l'île de Malte.
Il était argenté également.
Ouais. Comme le disait Daniel et Dominique, en fait, le but, bien sûr, en astronomie, c'est d'éviter le traverser du verre, que ça déforme. Donc, pour ceux qui se trouvent pas beaux dans leur salle de bain le matin, vous avez une excuse, parce que votre image, elle a traversé le verre une fois, elle s'est reflétée sur la surface d'argent, elle a retraversé le verre dans l'autre sens.
Et le verre se désespère à force de refléter votre image.
Voilà, donc c'est pour ça que c'est moins joli. Si vous avez un miroir de télescope, ou alors plutôt si vous avez de l'argent devant... sur la surface directement, là ça sera encore plus beau.
Bah moi je me suis regardé dans le miroir de mon télescope, je t'assure que je préfère encore le miroir de ma salle de bain.
Le miroir de télescope en plus il est taillé, donc c'est un peu plus compliqué.
Miroir ou mon miroir. Et je parlais de deux différences essentielles entre le miroir de salle de bain et le miroir de télescope.
Donc le premier, c'est que la surface.
Une, c'est l'histoire de la face qui est argentée, qui n'est pas la même entre les deux. Il y a une autre différence qui va tenir cette fois-ci, on va dire, à la géométrie du miroir. Pas à sa forme, puisque bon, un miroir de salle de bain peut très bien être circulaire, peut être rond. Les miroirs de télescope sont la plupart du temps ronds, quelquefois ils sont polygonaux, mais la plupart du temps ils sont ronds. Mais il y a quand même une différence sensible encore entre le miroir de salle de bain et le miroir de télescope.
La surface.
Ah bah oui, il n'est pas plan.
Le miroir de télescope n'est pas plan, puisqu'il va faire office d'optique. Si on avait un miroir plan, ben on se contenterait de renvoyer l'image du ciel telle qu'elle est, sans l'avoir grossie, donc on n'y verrait pas plus.
Oui.
Donc la deuxième différence, c'est que notre miroir de télescope, il va être, imaginez, miroir circulaire, donc c'est un disque, mais qui va être légèrement creusé en son centre.
Concave.
Il va être concave, selon un profil qui peut être sphérique, qui peut être parabolique, qui peut être hyperbolique, ça dépend de la formule optique du télescope. Mais dans tous les cas, ce miroir est creusé au centre de façon à, lorsque la lumière va tomber dessus,
voilà.
Ben oui.
Lorsque la lumière va tomber dessus, elle va en quelque sorte rebondir et se focaliser en un même point qui va être situé à une distance qu'on appelle la distance focale du miroir, comme on parle de la distance focale d'une lentille.
Ah, parce que j'imagine un grand, comment ça s'appelle, les espèces d'élastiques qu'on saute dessus, là,
trampoline.
Les trampolines, en forme de parabole. Si vous envoyez des gens sur un trampoline en forme de parabole,
ils vont se cogner les uns sur les autres au foyer du grand...
Parce que par défaut, effectivement, le miroir d'un télescope est parabolique. Après, les miroirs sphériques ou d'autres formes, ce sont des formes qui ne renvoient pas une image unique en un foyer unique. Donc après, il y a d'autres miroirs qui vont corriger cela.
On vous fera grâce des calculs qui servent à déterminer les profils des miroirs.
Donc là, en fait,
et en fonction de la formule du télescope, on peut arriver à des choses qui sont relativement complexes.
Donc là, en fait, on a bien vu que les miroirs, en plus, étaient donc creusés. Donc c'est une des difficultés, en fait, pour construire des gros instruments, c'est qu'il faut avoir une forme presque parfaite.
Voilà, alors si vous avez été fidèle aux émissions précédentes, on vous a expliqué que lorsqu'on construit un miroir d'amateur, ben, on se contente de prendre deux disques de verre et de se débrouiller de les frotter les uns sur l'un sur l'autre en les faisant tourner, et de cette façon, ben, on va en creuser un et puis l'autre va être en relief en quelque sorte.
J'ai une explication pour ça, parce que souvent j'étais amené à l'expliquer, j'ai trouvé. Je me suis imaginé l'inverse. Si vous vouliez faire un miroir parfaitement plan, hein, avec tout à fait plat, eh bien, ça serait très difficile parce que à chaque fois que vous avez un petit mouvement,
vous appuyez un peu plus fort
d'un côté de l'autre, vous vous éloignez du plan. Et qu'est-ce que vous faites quand vous éloignez du plan? Vous tombez dans la courbe. On est d'accord?
Tout à fait.
Et statistiquement, si vous faites tourner votre miroir dans tous les sens, si vous frottez un verre sur l'autre, statistiquement, le verre qui est en dessous, il va se bomber. Celui qui est au-dessus, il va se creuser. Voilà. Donc, si vous voulez continuer à creuser votre miroir, vous allez le mettre au-dessus. Mmh. Hein? S'il est trop creusé, vous allez le mettre en dessous, parce que là, vous êtes sûr de le rebomber
alors,
dans votre sens.
C'est malgré tout les techniques qui ont été utilisées au début du siècle pour construire les premiers grands miroirs dignes de ce nom. Hein, je parlerai des télescopes qui ont été montés en Californie, au Mont Wilson, qui étaient des télescopes dotés de miroirs de... Le plus grand faisait 2,50 m à cette époque, il est toujours en service d'ailleurs, hein. Il y avait un télescope d'1,50 m qui a été construit un petit peu avant, et donc c'était encore les techniques qui étaient utilisées à ce moment-là. Ça a été même utilisé jusqu'à une période relativement récente, puisqu'on a continué à fabriquer des miroirs selon cette technique-là, jusqu'au plus grand des miroirs monoblocs qui étaient construits de façon traditionnelle et qui équipe un télescope qui est dans le Caucase, à Zelenchouk, et qui est quand même, puisqu'il existe toujours ce télescope, heureusement, il n'est pas si vieux, un miroir de 6 mètres de diamètre.
Le seul problème de ce télescope, c'est qu'il est à peu près mal situé, je crois.
Et en fait, il est situé dans une région qui n'est pas fantastique au point de vue de qualité du ciel.
Voilà. C'est pour ça qu'on en entendrait très peu parler.
Toujours est-il que jusqu'à cette époque-là, on a utilisé cette méthode traditionnelle de construction des miroirs et on a fabriqué des miroirs qu'on voulait rigides, donc des miroirs monoblocs. Alors,
solide surtout aussi.
Solide.
Rigide et solide.
Rigide, ça veut dire qu'il ne soit pas susceptible de se déformer en fonction de la position du télescope. Donc, pour que le miroir reste parfaitement rigide, ben, on lui donnait de l'épaisseur. Si bien qu'on arrivait, notamment pour ce miroir de Zelenchouk, à des masses fantastiques. Je crois que c'est un miroir pour 6 mètres de diamètre qui doit avoisiner les 40 tonnes ou quelque chose comme ça.
Pour donner un exemple, tu vois, mon miroir qui fait 20 cm, donc c'est la taille d'une assiette. Mmh. Eh bien, pour faire en sorte que lorsque le miroir va se dresser, quand mon télescope va s'incliner, et pour pas qu'il s'effondre sur lui-même, alors évidemment, il va pas s'effondrer comme ça, visuellement. Il va se déformer imperceptiblement, mais à l'échelle de ma parabole, oui. Eh bien, pour que ça n'arrive pas, il fallait qu'il ait au moins 23 mm d'épaisseur. Même plus 25, je sais plus.
C'est considérable pour un miroir de 20 cm, c'est 10% du diamètre. Et on est même dans des proportions qui sont au-delà des 10% quand on parle de ces miroirs comme Zelenchouk, comme le Mont Palomar qui date d'après-guerre, qui ont été construits selon ces méthodes-là. Alors bon, on utilisait quand même des astuces pour les alléger parce que dès l'instant où on a des miroirs qui ont des masses comme ça, il faut imaginer les montures. Bon, sans rentrer dans les détails mécaniques, pour que la monture puisse être correctement amortie, pour qu'il n'y ait pas de vibration lorsqu'on va déplacer le télescope, il faut que la monture représente à peu près 20 fois le poids du miroir pour que ça ne vibre pas. Alors imaginez un miroir de 40 tonnes, la masse de la monture, c'est gigantesque. Alors, bien évidemment, on a essayé de trouver des méthodes pour alléger ces miroirs. Alors, c'était le cas de Palomar, par exemple. Donc Palomar, on a aménagé, à l'intérieur du miroir, on a aménagé des alvéoles au moment de la coulée, au moment du moulage, de façon à rendre ce miroir un petit peu moins lourd. Et puis on va passer une grande étape, on va arriver dans les années 80, et là on a essayé de fabriquer des miroirs de diamètre plus grand que 6 mètres, 5 mètres, pour aller dans le sens de ce que je disais à l'entrée de jeu tout à l'heure, c'est-à-dire que plus le miroir est grand, plus on va pouvoir distinguer des détails fins, des détails petits. Sachant que jusqu'à une période encore relativement récente, on était limité non pas trop par la taille du miroir en ce qui concerne la finesse de l'observation, mais plutôt par la couche d'atmosphère que la lumière doit traverser pour arriver jusqu'au miroir. Vous avez certainement remarqué qu'il suffit de mettre le nez dehors pour ça. Dehors, il y a du vent, il fait chaud, il fait froid, tout ça, ça induit des mouvements dans les masses d'air qui circulent autour de la Terre, où ça crée ce qu'on appelle de la turbulence. Il y a du vent, il y a des écarts de température. Et bien évidemment, quand la lumière va traverser ces masses d'air qui vont être relativement différentes les unes des autres, cette lumière va se trouver extrêmement altérée. Et à tel point qu'on montrait que au-delà de 4 mètres, au-delà d'un diamètre de miroir de 4 mètres, on n'avait plus d'espoir de gain en ce qui concerne la qualité à cause de l'atmosphère. Mais heureusement, on a mis au point des techniques, je vous en reparlerai lors d'une autre émission, qu'on appelle optique adaptative, optique active, qui consiste à en quelque sorte compenser la turbulence atmosphérique. Et alors, à ce moment-là, ça a ouvert la porte à la construction de grands miroirs. Aujourd'hui, un miroir de télescope, s'il fait pas 8 mètres, c'est petit. Et imaginez 8 mètres de diamètre, s'il avait fallu rester dans les techniques de construction des miroirs comme celui de Palomar ou Zelenchuk, on serait arrivé à des miroirs de masse gigantesque. Eh bien, on a mis en œuvre des procédés de fabrication qui sont vraiment différents et qui vont permettre de fabriquer non plus des miroirs très épais pour les rendre rigides, mais là, on va au contraire fabriquer des miroirs qui vont être un petit peu des crêpes. Hein. Ça va être un peu souple. Et on va utiliser la mécanique et l'informatique à la fois pour, lorsque le miroir va être en service, lui conserver le profil qu'on veut lui donner.
Oui, parce qu'en fait, c'est paradoxal. Au départ, on voulait avoir un miroir qui ne bouge pas, qui ne soit pas altéré, parce qu'il faut bien savoir qu'un télescope, si vous le laissez, à la rigueur, un miroir, vous pouvez diminuer la taille si vous le laissez pas vers le bas, horizontal. Mais vu que vous observez les étoiles qui sont un peu partout, vous êtes obligé de l'incliner. Donc la masse du miroir elle-même va se déformer une forme. Donc c'est ce que disait Dominique, il faut absolument avoir un miroir assez épais pour que la déformation se fasse pas.
C'est assez facile à voir l'image. Imaginez une assiette, une très très grande assiette, vous la mettez à plat. Ben, ses bords vont avoir tendance à tomber, donc l'assiette va avoir tendance à s'ouvrir. Ben, cette assiette, elle est dans une matière souple, hein, c'est de la crêpe on va dire. Vous la redressez, vous la mettez pratiquement sur la tranche à la verticale. Qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va se refermer sur elle-même. C'est exactement ce qui se passerait avec les miroirs de télescope s'ils n'étaient pas suffisamment rigides.
Non, c'est ce que tu dis.
Mais malgré tout, aujourd'hui, c'est ce qu'on fait.
Donc maintenant, on inverse, on veut carrément avoir des crêpes, puisqu'en fait, avec l'informatique et puis la mécanique,
on met des vérins derrière le miroir, voilà, pour compenser le profil.
On l'accroche à des vérins et en fait, on le déforme en continu pour en fait qu'il vienne tout le temps, qu'il ait tout le temps la forme parfaite, c'est ça à peu près.
Voilà, alors bon, des difficultés sont évidemment apparues quand on a voulu construire des miroirs de ce type-là, parce que imaginez, si on prend l'exemple d'un miroir qui équipe un des télescopes du VLT, donc le télescope, un des télescopes de l'Observatoire européen austral là, au Chili, ben, un miroir comme ça, ça fait 8,20 m de diamètre et ça fait 17 cm d'épaisseur. En gros, c'est la proportion d'un CD. Vous voyez un CD, vous le multipliez par le bon coefficient et vous arrivez à peu près aux proportions d'un miroir du VLT.
Oui, ça veut dire en fait, tu reviens à un CD, c'est ça, c'est-à-dire que ça fait l'épaisseur d'un CD en proportion, ça fait l'épaisseur d'un CD, donc c'est assez réel.
Donc c'est pas très épais. Et alors comment s'y est-on pris pour fabriquer de tels miroirs? Ben, là, imaginez, creuser un miroir comme ça à la main, sur une telle surface, ça fait quand même des quantités de matière à enlever. Eh bien, imaginez qu'un miroir comme ça, on le creuse pas, ou pratiquement pas. Puisque
on va le courber, non, c'est ça?
C'est pas tout à fait ça. On va aussi le courber, mais on va utiliser une astuce au moment de la coulée de ce miroir, au moment du moulage. Donc n'importe quelle pièce de verre, pour être fabriquée, elle a besoin d'être moulée, hein, que ce soit un verre à boire, une bouteille, un miroir ou n'importe quoi. On part de verre en fusion qu'on va couler ou qu'on va laminer si on veut faire du verre plat. Eh bien, dans le cas d'un miroir qui est une pièce, qui est un disque en fait, qui est une pièce de révolution, mais pour lui donner déjà une bonne approche de son profil, on va, au moment de la couler, le mettre dans un moule qu'on va faire tourner. Et simplement par l'effet de la force centrifuge, bah, la matière, le verre en fusion, va venir sur les bords. Hein, sur les bords du moule. Et quand on va mettre la bonne vitesse, donc il va falloir faire quelques essais, définir la bonne vitesse, on va avoir à la surface, non plus une surface plane, mais une surface qui va déjà être creusée selon un profil qui va déjà pas mal approcher celui qui sera le profil final de ce miroir.
Ouais, parce que donc nous en amateur, on part d'un disque plat des deux côtés, alors qu'eux en fait ils vont le faire tourner sur lui-même, ils vont le couler, alors que nous c'est du verre qu'on achète dans le commerce, en fait c'est des blocs de verre qui sont déjà froids, alors qu'eux c'est du verre en fusion, ils vont le faire tourner sur lui-même et déjà en fait il commence déjà à prendre sa forme. Voilà, donc on gagne déjà tout le temps d'enlever toutes ces parties.
Donc on n'aura pas le miroir à creuser pour lui donner sa préforme, on va dire. Et par-dessus le marché, ce genre de miroir, il va être en fait sa forme, on appelle ça un ménisque, puisque son épaisseur va être équivalente autant au centre qu'à la périphérie. Ça veut dire que le moule, pour la partie non active du miroir, donc ce qui se trouve dessous, il aura aussi un profil qui sera à peu près le même que celui de la face supérieure, de façon à avoir un miroir d'épaisseur uniforme sur l'ensemble de sa surface. Alors ça, pourquoi on fait ça? C'est simplement pour permettre des déformations quand il va être en service, ce miroir, des déformations qui seront plus faciles à maîtriser.
Donc en fait, ça revient à faire une lamelle en fait.
C'est une lamelle, ouais.
En coupe, ça ferait une lamelle, ça ferait pas.
On a une épaisseur uniforme depuis le centre vers la périphérie.
D'accord.
Et une autre particularité de ces miroirs, et Dieu sait si les astronomes, même les astronomes amateurs, sont confrontés à ce problème-là, lorsqu'on va décider d'aller faire une observation la nuit, on sait très bien qu'on ne pourra pas utiliser immédiatement un instrument qu'on va mettre dehors. Il faut absolument qu'on attende que les températures s'équilibrent, c'est-à-dire que la température du miroir et de l'ensemble des pièces qui composent l'instrument soit équilibrée avec la température extérieure. Sinon, on est dans des domaines des ordres de grandeur, ce qui concerne la géométrie du miroir, qui sont équivalentes ou même inférieures à la longueur d'onde. Ça veut dire qu'on est dans les nanomètres. On est vraiment, les nanomètres, c'est un millionième de mètres. On est vraiment dans
un millième de micron.
Un millième de micron.
Voilà.
Donc on est dans des ordres de grandeur qui sont vraiment très 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 petits, donc la moindre déformation a une incidence immédiate et directe sur le résultat, d'où la nécessité d'attendre que notre matériel soit mis à température, donc en équilibre avec la température environnante. Eh bien, imaginez que si le problème se pose avec des miroirs de 20 ou 30 cm d'amateur, le problème va être d'autant amplifié avec
la
taille du miroir. Alors, d'où la nécessité, lorsqu'on va choisir un matériau pour construire un miroir de grand télescope, comme ça, de faire en sorte qu'il soit aussi peu sensible que possible à l'effet de la variation de la température. En d'autres mots, on va dire que son coefficient de dilatation thermique, il faut qu'il soit le plus petit possible. Et c'est une prouesse à laquelle sont arrivés les ingénieurs aussi qui ont mis au point les verres qui servent à fabriquer ces miroirs. En deux mots, comment ça se présente? Eh bien, aujourd'hui, un des leaders dans la fabrication et le moulage de ces grands miroirs, c'est la société Schott en Allemagne.
Ah oui, d'accord. Je croyais qu'un des leaders, c'était la société Schubert. Ça aurait pu. Hein.
Ça aurait pu. Daniel se réveille. C'est la société Schott en Allemagne qui a mis au point un verre ils lui ont donné un nom commercial, ça s'appelle le zéro dur. Zéro parce que probablement que le coefficient de dilatation est très proche de zéro, puis dur parce que ça doit pas être très mou.
Voilà.
Eh bien, ce verre a une particularité.
D'ailleurs, ça veut dire dièse en allemand aussi.
Oui, on rejoint la musique encore une fois. On n'est plus avec Newton.
Tu étais rendu sur
sur les caractéristiques du verre. Le verre qu'on utilise tous les jours, le verre à boire, le verre des bouteilles, il a une structure qu'on dit amorphe, c'est-à-dire que l'arrangement des atomes dans du verre, il est indifférencié, il est quelconque. C'est pas comme dans un cristal. Quand un des plus beaux cristaux que vous pouvez voir, c'est sûrement le cristal de diamant, qui fait que le diamant, il a un arrangement qui est de ses atomes, le constituant, qui est bien particulier, qui va lui donner cette capacité à réfléchir la lumière dans tous les sens, etc., etc.
Vous savez de quoi c'est fait, le diamant ?
Carbone.
Le carbone. Alors, si vous voulez savoir si votre diamant est vrai, vous le brûlez. S'il ne reste pas rien du tout, c'est que c'était du vrai.
C'était du carbone. Hein.
Voilà.
Eh bien, notre fameux zéro dur, l'a mis au point par les ingénieurs de Séchotte, lui, il est constitué à la fois, en partie, donc de verre amorphe et de verre cristallin. Alors, pourquoi on a du verre amorphe et du verre cristallin ? Bah, il se trouve que là, les ingénieurs ont exploité une particularité très intéressante, c'est que le verre en soi, il a un coefficient de dilatation qui n'est pas nul. On va dire qu'il a une certaine valeur positive. Mais le cristal qui entre dans la composition de ce matériau a un coefficient de dilatation aussi. Grosso modo de la même valeur que celui du verre, mais de signe inverse. Si bien que si on ajuste parfaitement les proportions de ces deux constituants du verre, on arrive à avoir un matériau avec un coefficient de dilatation nul. Ce qui est très très intéressant quand on veut construire un miroir de grand télescope, puisqu'on va quand même limiter en grande partie tous les effets dus à la mise en température, qui va quand même prendre du temps sur un engin comme ça, de ces grands miroirs.
Mais là j'ai un petit problème de compréhension, parce que s'ils ont deux coefficients de dilatation différents, même différents, ils sont quand même tous les deux positifs, ils se dilatent tous à la chaleur.
Et non, parce qu'il y a des
matériaux. Il y en a un qui devient plus petit à la chaleur.
Il y a un matériau qui se rétracte à la chaleur.
Ah, voilà, ça, c'est ce qu'il fallait, oui.
Il y a un matériau qui se rétracte à la chaleur, c'est la phase cristalline, on va dire, et la phase amorphe, la phase de verre classique, elle, au contraire, se dilate à la chaleur. Et en combinant les deux, on arrive à avoir un matériau qui a une dilatation quasi nulle.
C'est un peu de la chimie. La chimie du verre, c'est vrai qu'il faut réussir à bien mettre les proportions pour que ça s'annule.
Moi, je peux vous citer un matériau qui se rétracte à la chaleur. Ah, tout le monde le connaît. Tout le monde a bu son petit apéro là, par ces chaleurs avec des glaçons. Eh bien, la glace, pourquoi elle flotte sur l'eau ? Parce que les atomes d'eau, enfin les molécules d'eau, occupent plus de place que dans l'eau liquide. Mmh. Hein, ça veut dire que quand le glaçon fond, les molécules d'eau se ratatinent les unes sur les autres. Donc le glaçon... Il prend moins de place à l'état fondu qu'à l'état solide. Donc c'est bien... j'aurais dû le savoir, mon cher Dominique,
donc,
tu vois.
Donc, on a des exemples courants dans la nature devant nous de ces phénomènes. Voilà.
Alors pour conclure...
Simplement, je rajouterais pour terminer, juste une toute petite minute pour terminer, c'est que notre miroir qui a été... on l'a poli entre-temps, on a mis des mois et des mois à le polir. La phase de moulage du verre également, ça prend à peu près une année, parce qu'il faut chauffer le verre, mais pour qu'il casse pas, il va falloir le laisser refroidir très très doucement, ça prend plusieurs mois pour le laisser refroidir. Et enfin, quand on aura donc moulé notre disque de verre, qu'on l'aura poli, qu'on lui aura donné exactement le profil qu'on souhaite, eh bien, on va mettre dessus un métal, mais dans ce cas-là, ça sera pas de l'argent. On va choisir un métal qui a des caractéristiques mécaniques un petit peu meilleures, ou des caractéristiques chimiques même, on peut dire, un peu meilleures que l'argent, qui aurait moins tendance à s'oxyder. Et en fait, on va déposer à la surface de ce miroir, on va déposer de l'aluminium.
On a déjà parlé de l'avantage, des avantages de l'aluminium.
Mais je m'inscris en faux contre le fait que l'aluminium s'oxyde moins, mais l'avantage de l'aluminium...
Non, il s'oxyde plus, il s'oxyde même plus, mais l'avantage c'est qu'il s'oxyde
voilà,
et il se transforme.
Voilà, c'est que sa couche d'oxyde d'aluminium, donc ce qu'on appelle l'alumine, enfin c'est carrément une roche, hein, c'est un feldspath en fait.
C'est de l'alumine, ouais.
Qui est transparent, voilà.
Qui a l'avantage transparent.
C'est transparent et ça va le protéger.
Ça fait comme une micro-couche de verre par-dessus, voilà. C'est génial.
Mais pour abonder dans le sens de Daniel, qui est un fervent défenseur de l'argenture des miroirs... Non pas les miroirs primaires, non pas les miroirs principaux du VLT sont argentés, mais dans certains cas, on fait appel à des formules optiques sur des miroirs secondaires ou des trains de miroirs tertiaires qui sont argentés parce que l'argent, dans le cas de certaines observations, a un coefficient de transmission pour certaines longueurs d'onde qui est meilleur que celui de l'aluminium.
Il approche les 100%, hein, c'est 98%, alors que l'aluminium, c'est 80%.
Un peu plus. On continue quand même à utiliser l'argent dans certains cas.
Merci Dominique, c'était un exposé assez long, il a pris son temps, il a raison, c'était très bien.
On l'a quand même interrompu.
On l'a interrompu aussi, non mais c'était très bien.
Je vous en laisse pour une prochaine fois.
Voilà,
on vous reparlera d'optique adaptative, on vous reparlera d'aluminure et de choses comme ça. Le sujet est loin d'être clos.
C'est l'astronomie, c'est toujours très vaste. N'oubliez pas, vous pouvez gagner des places pour la conférence d'André Braik.
Alors
pour
on ça, pose la question.
On pose la question. Ouais. Combien y a-t-il de planètes dans le système solaire qui possèdent des anneaux? Vous téléphonez au 02 40 93 26 62. 02 40 93 26 62. Vous répondez à la question et vous gagnez des places pour la conférence d'André Braik du mercredi 6 juin. Pas le mercredi qui vient, c'est celui qui est juste après. Mmh. Et on vous en parlera tout à l'heure. Après, la pause musicale, juste avant, on va...
Donc, combien de planètes sont mariées, hein, c'est ça ?
Qu'ont des anneaux, oui.
Oui, là.
Si tu veux. On va juste...
Paxer.
Ou paxer, si tu préfères. On est à la mode. Nous, voilà, bah d'accord, moi, je commence à bafouiller
un,
maintenant.
1, 2, 3.
Voilà, 1, 2, 3, c'est reparti.
On voit que c'est en direct.
Ah, hein. Bah, c'est ça l'avantage du direct. Hein. Oui. Donc, pour la suite de l'émission, on va vous poser une question, mais là, par contre, on vous apportera directement la réponse. On va vous demander pourquoi le ciel est-il bleu et on va vous présenter la conférence d'André Braik. Mais tout de suite, une petite pause. C'était une petite plage musicale. C'était Moonshine par Mike Oldfield.
Moonshine, c'est la lueur de la lune.
Voilà, hein, c'est pour ça que ça passe sur Pulsan.
Ah oui. Et bien, n'oubliez pas la lune, hein, le samedi 2. Hein.
Quelle transition, Daniel ? Donc, les samedis 2 juin. Vos
derrière
samedis,
le planétarium.
Derrière le planétarium, observation publique de la lune, voilà, et du ciel, gratuite. Donc, vous venez au planétarium dès la tombée de la nuit et on vous montrera tout ce qu'il y a d'intéressant à voir dans le ciel.
Quand vous entendez boum, c'est que la nuit est tombée, donc vous pouvez venir.
Vers le bas.
Vers le bas, bien
pour
sûr.
Pour ceux qui ont
depuis Newton.
Oui. Depuis Newton, quand c'est vu le début de l'émission. Vous êtes toujours sur Alternante. Vous êtes avec la Société de l'Astronomie de Nantes. C'est l'émission Pulsan.
Et ça s'entend.
Et ça s'entend de quoi ?
Qu'on est sur Pulsan et en direct.
Ah oui, en direct, oui, ça s'entend, ce que je bafouille.
Mais non.
Vous pouvez gagner des places pour la conférence d'André Braik. Vous
pouvez aussi ne pas les gagner.
Vous pouvez aussi téléphoner, parce qu'en fait, apparemment, nos amis de la technique n'avaient pas branché le téléphone, ont été décrochés. Donc, en fait, pour ceux qui ont appelé que ça sonne occupé, c'était normal, puisque nos amis là-bas, qui sont derrière leur vitre.
Ah, ils sont exceptionnels, hein, franchement.
Ah, c'est
quand même. Je sais pas si on va les augmenter, là.
Non, on remonte que c'est avec des bénévoles, parce qu'autrement, hein, ça irait pas.
Ils sont vraiment nuls, hein, je crois.
Donc,
même à côté de nous.
Hein? Combien y a-t-il de planètes dans le système solaire qui possèdent des anneaux ? Donc vous téléphonez au 02 40 93 26 62, 02 40 93 26 62, vous pouvez appeler maintenant, puisque avant, pour ceux qui ont appelé, c'était occupé. Voilà, ça c'était pour la petite anecdote des gens de la technique, c'est agréable quand ils font des bons.
C'est toujours de l'aventure avec Pulsan.
C'est toujours l'aventure avec nous. Tout de suite, nous allons vous parler du ciel, mais en pleine journée, on va vous poser la question « Pourquoi le ciel est bleu ?» et c'est Stéphane Lenné qui va vous répondre.
Jingle, blablabla.
Ça c'est leur souris à la technique, hein.
J'essaye.
Normalement il y a un jingle, je sais plus ce que c'est le jingle de l'astropratique, mais
on va le faire, hein.
Une, bon. Deux, trois.
Pom, pom,
bon, mais il n'arrive pas à le lancer.
Pom, pom, pom,
bon, bah, voilà.
Pom, pom, pom.
C'était le jingle à la voix.
À quoi, Thierry ?
À la bouche, comme dans le film des nuls. Tout est fait à la bouche. À toi, Stéphane.
Non mais je vous en prie.
Bonsoir, pourquoi le ciel est-il bleu ? C'est une question que je me suis posée depuis longtemps, et elle est d'actualité en ce moment. Et on s'en réjouit. Oui, effectivement, dans l'espace et sur la Lune, le ciel est noir, même en plein soleil, alors que sur Terre, il est bleu, la plupart du temps.
Oui, c'est vrai, on voit ça dans Tintin. Hein. Mm. Le ciel est noir.
Et sur les photos, Apollo.
Oui, mais le ciel bleu sur Terre, on ne le voit quand même pas si souvent.
Oui, mais enfin, quand il n'est pas bleu, il est plutôt gris, et pas noir.
Alors, j'ai mené mon enquête et j'ai trouvé la réponse dans le ciel, dans la composition de l'atmosphère. L'atmosphère est composée de gaz incolores, qui sont principalement l'azote et l'oxygène. Ce sont donc des petites molécules qui composent l'atmosphère. Mais il y a également de plus grosses particules, comme des cristaux de glace, des gouttelettes d'eau dans les nuages, mais aussi des poussières, qui sont des particules plus grosses. Or, on sait que les particules absorbent la lumière lorsqu'elles sont éclairées. Le meilleur exemple est l'ozone ou l'oxygène qui absorbe les ultraviolets venant du soleil.
Ce qui nous protège d'ailleurs.
Oui, tout à fait, parce que ces ultraviolets sont mortels. Donc,
pour nous, ouais.
Oui.
Pas pour les poissons, parce que là, c'est l'eau qui les protège.
Oui. C'est ce qui a protégé la vie et c'est pour ça qu'elle était apparue dans les océans. Enfin, qu'elle est apparue partout, mais elle a pu se maintenir et se complexifier dans les océans.
Tout à fait. Donc, liée à l'ozone.
Donc, les particules de l'atmosphère absorbent de la lumière. Lorsque de la lumière arrive sur une particule, celle-ci est absorbée puis restituée. C'est ce qu'on appelle le phénomène de diffusion. Mais ça n'explique pas pourquoi le ciel est bleu.
Donc là, en fait, la lumière, pour l'instant, elle se diffuse dans l'atmosphère parce que les particules qui la diffusent. En fait, ça, c'est tous les gaz, en fait, tous les gaz diffusent la lumière. Voilà.
Ouais. Ça rebondit sur les milliers de petits miroirs de télescopes moléculaires.
Voilà.
Qui sont creux.
La lumière se trouve dispersée dans tout le ciel. Alors, plusieurs physiciens se sont penchés sur la question, notamment.
Donc ils ont regardé vers le bas.
Pour ceux qui n'ont pas suivi, on a parlé de Newton et de les pommes tombées vers le bas, mais bon, pour ceux qui n'ont pas écouté là au début de l'émission.
Et notamment l'anglais Rayleigh au 19e siècle, qui a fondé la théorie de la diffusion de Rayleigh, qui explique la diffusion par les petites particules de gaz, et aussi le physicien Mie, qui en 1908 a explicité la diffusion dite de Mie. Mie s'écrit M-I-E.
Comme le pain.
C'est pas un chinois, hein. C'est pas Mi, Yo, Uto. Donc monsieur Mi de pain.
Justement, il a. Sa théorie explique la diffusion par les plus grosses particules, donc par l'eau, la glace et les poussières. Alors, le plus important est la diffusion de Rayleigh. Qui explique que l'intensité de la lumière rayonnée par l'atmosphère dépend de la longueur d'onde du rayonnement, c'est-à-dire de la couleur. Puisqu'on sait que la lumière blanche du soleil est composée de toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Donc la lumière du soleil se trouve décomposée en quelque sorte. Puisque les composantes bleues de la lumière sont diffusées beaucoup plus efficacement que les composantes rouges. Le rouge et le bleu étant les extrêmes...
De l'arc-en-ciel.
Du spectre.
Du spectre.
Donc, ainsi, donc, la lumière rouge traverse l'atmosphère assez directement.
Presque sans être déviée, en fait, c'est ça.
Voilà. Et, alors que la lumière bleue se disperse dans l'atmosphère... Puis ensuite est restitué par l'atmosphère qui nous renvoie le bleu. Ainsi, voilà pourquoi l'ensemble du ciel se trouve de couleur bleue. J'imagine que vous demandez des preuves de diffusion.
Parce que là, tu donnes l'explication, mais pour l'instant, on a du mal à y croire, à la rigueur.
Oui, vous êtes déjà retrouvé dans le brouillard. C'est où la visibilité est réduite. Et justement. À cause de cette diffusion qui brouille les images.
D'ailleurs, on peut avoir une preuve, c'est si vous utilisez la nuit dans le brouillard. Si vous êtes en code, vous y voyez à peu près. Mais si vous mettez en phare, alors là, vous n'y voyez plus rien. Parce que vous croyez voir mieux à cause des phares, puis la lumière vous revient dans la figure, en fait. Hein.
Ben voilà, oui, c'est une autre explication qui est le phénomène d'ombre. À l'ombre, il n'y a bien sûr pas de lumière. Donc, il devrait faire noir. Et pourtant, quand on est à l'ombre du soleil, on arrive à voir. C'est ainsi que la lumière peut parvenir.
Sinon, on ne pourrait pas lire la température, combien il fait à l'ombre.
Voilà. Non, mais c'est vrai que sur la Lune, par exemple, quand ils sont à l'ombre, c'est vraiment noir.
Oui, puis ils ne savent pas où ils sont. Alors, ils téléphonent, ils disent « Allô, ici l'ombre
!» Oh là là, il a osé le faire.
La faible lumière qui nous vient lorsqu'on est à l'ombre
cette
vient d'en fait...
Cette clarté qui nous vient des étoiles.
Ouais. Non, c'est en fait l'atmosphère qui nous redirige une partie de la lumière solaire. C'est la preuve que l'atmosphère...
Diffuse.
Et donc redirige une partie du rayonnement solaire. Sont deux applications. Le brouillard et l'ombre sont deux preuves...
indirectes ou pratiques.
De la diffusion.
La diffusion de la lumière par l'atmosphère. Ainsi, pour résumer, donc la lumière blanche du soleil est composée de
toutes les couleurs.
Et ces couleurs se trouvent dispersées, mais de façon diverse par les composantes de l'atmosphère. Le rouge nous vient directement et on le voit assez peu, alors que le bleu se trouve éparpillé dans l'atmosphère. Et nous revient aussi parce que, directement par
la diffusion des molécules.
Voilà, donc, le ciel est bleu donc, pour cette raison.
Ça vient du fait que le bleu étant des radiations de longueur d'onde plus petite, plus courte et plus énergétique. Étant plus énergétique, il se cogne davantage sur les molécules et puis boum boum boum, puis diffuse. alors que le rouge, il est un peu paresseux, il va se glisser entre les molécules. Hein, c'est à peine imagé, c'est vrai ce que je dis.
Oui, tout à fait. Oui. C'est la relation entre la longueur d'onde et l'énergie d'un rayonnement lumineux.
C'est la fameuse relation de Planck, l'énergie égale H mu, H constante de Planck. Ça veut dire qu'il se cache, hein, et mu, la fréquence du rayonnement. C'est très sérieux ce que je raconte.
Ah oui, bah oui, mais avec Is Planck et tout ça. Bon, alors donc maintenant on sait que le ciel est bleu, puisque en fait la lumière est diffusée par l'atmosphère, et donc en fait le bleu est beaucoup plus diffusé que le rouge, c'est à peu près ça. Alors pourquoi les nuages sont blancs par contre ?
C'est l'autre théorie, c'est celle du physicien Mi qui l'explique. Les nuages sont composés de cristaux de glace et de gouttelettes d'eau, qui sont des particules plus grosses que les
petites molécules de l'atmosphère.
Voilà. Et c'est la diffusion par ces plus grosses particules ne se fait pas selon la longueur d'onde, pas selon la couleur. Et ainsi, tout le rayonnement nous parvient directement.
Ça ressemble un peu à des vrais miroirs, des petits miroirs, des tout petits miroirs. En fait, ils diffusent, les nuages sont blancs, puisqu'ils réfléchissent toute la lumière.
Ouais.
Et là, c'est plus un système de réflexion qu'un système de diffusion, quoi, en fait.
Oui, c'est... Les nuages sont ainsi blancs à la lumière, mais il arrive qu'ils soient gris aussi.
Est-ce que la composition n'est pas la même ?
Non, quand ils sont en fait à l'ombre, quand la couche nuageuse est...
Très épaisse, ouais, les nuages de la couche
inférieure sont à l'ombre.
Parce qu'effectivement, si vous observez les nuages par-dessus, ne serait-ce que lorsu'on voyage...
Ils sont jamais gris.
Ouais. Ils sont toujours très blancs.
Ah oui, c'est vrai,
ils sont toujours très blancs, parce que même les nuages d'orage les plus denses sont toujours blancs, éclatants, puisque éclairés par-dessus.
Ouais, c'est comme quoi, hein. On apprend toujours des choses à Pulsan. Hein.
Ah oui, mais
donc en fait, les nuages sont toujours blancs, et en fait, comme il expliquait, il y a des couches supérieures d'atmosphère où il y a des nuages blancs, et en fait, s'il y a des nuages qui sont en dessous, ils sont un peu gris, puisqu'ils sont un peu blancs, et s'ils sont encore en dessous, ou alors si vraiment la couche nuageuse est vraiment très importante, elle est noire. Comme dit Dominique, regardez. Quand vous allez en avion, si jamais vous voyagez de nuit, vous êtes du côté hublot, vous regardez le ciel, c'est aussi agréable, et vous regardez aussi le bas en pleine journée, puisque s'il y a des nuages, bon, vous ne verrez pas le paysage, mais vous verrez bien que les nuages sont tous blancs.
Mais également, on peut dire que l'atmosphère étant de moins en moins dense avec l'altitude, la lumière se trouve de moins en moins diffusée, et le ciel est donc de plus en plus sombre lorsqu'on prend de l'altitude. On le constate sur Terre.
Il y a moins de couches d'atmosphère qui le diffusent.
Il n'y a pas besoin d'aller très haut. Hein. Il suffit d'aller en montagne à 2-3 000 mètres d'altitude pour voir qu'en pleine journée, surtout... Alors, il y a d'autres phénomènes qui interviennent, hein, comme la polarisation. Mais il suffit d'aller en montagne un petit peu dans ces altitudes-là pour voir qu'effectivement, le ciel est beaucoup plus dense qu'en pleine. Et c'est pas seulement dû à la pollution. C'est dû à des phénomènes optiques normaux.
Mais même à Nantes, n'importe où, le bleu du ciel est plus intense au zénith et plus blanchâtre au niveau de l'horizon.
C'est vrai que si vous regardez vraiment le ciel au-dessus de votre tête, il sera beaucoup plus bleu, parce que vous avez beaucoup d'atmosphère, plus que ce qu'il y a à l'horizon.
Et là intervient le phénomène dont je parlais à l'instant, qui s'appelle la polarisation, qui fait que le ciel semble plus dense, plus bleu, dans une direction qui est perpendiculaire à la direction du soleil. Si vous avez le soleil qui est à, par exemple, 45 degrés de hauteur, vous vous mettez le soleil dans le dos, vous regardez 45 degrés devant vous, donc 45 plus 45, vous aurez un angle droit. Et dans cette direction-là, vous aurez une bande de ciel qui sera très dense, qui va tirer sur le violet. Et ça marche en pleine aussi, mais à condition d'avoir du beau temps, d'avoir le soleil dans le dos. Vous avez le soleil dans le dos, vous regardez devant vous, aurez une bande de ciel polarisée beaucoup plus dense.
Et quand vous montez très très haut en montagne, et bon, il faut pour ça, il faut aller en altitude, il faut dépasser 3-4 000 mètres, 5 000 mètres. Bon, moi j'ai vu des photos, j'y suis pas allé, et on voit très bien que le ciel commence à être noir.
Ouais, ouais,
c'est vraiment, ça tire sur le violet foncé, ça devient une pureté éclatante, et on vire vers le noir. Et on imagine bien que si on va encore plus loin, on serait presque comme sur la Lune.
Donc maintenant on a vu, le ciel est bleu, les nuages sont blancs. Alors pourquoi pour conclure, nous dire pourquoi le ciel est rouge?
Alors, au couchant.
Mais aussi au lever du soleil.
Et aussi au levant. Mais au levant, les astronomes, ils sont plus couchés. Donc.
Donc, au couchant, le trajet de la lumière dans l'atmosphère est plus long. Donc, la couche d'atmosphère traversée par la lumière est plus importante. Ainsi, l'absorption de la lumière bleue se trouve amplifiée. Et le bleu et le vert de la lumière se trouvent en fait dilués dans l'atmosphère.
Complètement diffusés. En fait, ils sont complètement diffusés, vous n'arrivez même plus à l'œil.
Totalement dispersés. De même, donc, l'éclat du soleil est atténué. Et ce soleil apparaît rouge, rougeâtre. Et les nuages prennent une teinte assez rose. Donc voilà, les changements.
En fait, ce ne sont pas les nuages qui sont roses, c'est parce qu'il n'y a plus de bleu.
Il n'y a plus de bleu. Le bleu est plus diffusé, en fait. Voilà.
Oui, c'est le
bleu est beaucoup plus diffusé. C'est vrai qu'on a beaucoup plus d'atmosphère, paradoxalement, puisque en fait, vous avez le ciel, le soleil au-dessus de vous, donc entre guillemets, imaginons qu'on considère qu'il y a 300 km d'atmosphère. Je dis une bêtise. Vous avez, entre votre œil, et vous n'avez que 300 km d'atmosphère qui diffuse la lumière, on est bien d'accord. Donc le bleu est beaucoup diffusé. Par contre, si vous regardez à l'horizon, le soleil, vous avez 300 km d'atmosphère, les rayons du soleil qui traversent 300 km pour arriver sur le bord de la Terre, mais il faut encore qu'ils traversent un rayon terrestre complet. Puisque en fait, par rapport à la distance où vous êtes, et bien ça augmente la distance d'atmosphère que vous avez entre vous et le soleil. Et en fait, là, le bleu est complètement diffusé. Et donc, en fait, vous ne voyez plus que le rouge. C'est un peu ça.
Voilà, c'est
simple. D'où l'expression, on n'y a vu que du bleu.
Ça, c'est de la bonne conclusion, Dominique. Merci, Stéphane.
Je vois qu'on peut faire pire que moi.
Il y a un concours ce soir. Tout de suite, nous allons vous parler de la conférence d'André Braïk. Ça s'appelle « Les enfants du soleil ». Et donc, on va voir si la technique peut lancer le jingle. Ah, bien.
Je sais pas si c'est voulu, ça. C'était peut-être... Non, on va dire que c'est voulu, hein.
Non, mais moi, je les ai vus. Il y en a un qui s'est assis sur la platine.
Ah oui, mais ils font n'importe quoi. Ils donnent des coups de pied dans la platine. Hein.
C'est pour ça l'intervalle de rebondissement, voilà. Pour parler de collision. Hein.
Donc là, c'est Daniel Warling qui va nous présenter un peu la conférence d'André Braïk, pour laquelle vous pouvez gagner des places en téléphonant au 02 40 93 26 62. 02 40 93 26 62. Vous répondez à la question, combien y a-t-il de planètes dans le système solaire qui possèdent des anneaux? Toi, Daniel.
Eh bien oui, moi j'ai cette lourde charge de vous présenter un personnage hors du commun et une conférence exceptionnelle sur un sujet extrêmement vaste, puisqu'il concerne notre système solaire. Alors évidemment, vous allez me dire, oui, mais ça c'est des choses maintenant on commence à connaître, on aime toujours aller plus loin. Maintenant on a découvert plus de 30 systèmes solaires, entre guillemets, puisqu'il s'agit de systèmes extraplanétaires autour d'autres étoiles. Certes, mais notre système solaire, d'une part, est loin de nous avoir livré tous ses secrets, puisque il y a encore énormément de, par exemple, de rien que les résultats des sondes spatiales, il faut savoir qu'il faut des années et des années pour les dépouiller. Et justement, André Braïk me racontait que Cécile Ferrari, enfin c'était à l'époque une jeune étudiante qui faisait une thèse, comme sujet de thèse, il lui a dit, écoutez, plus personne ne s'intéresse à Saturne, puisqu'on était à l'époque, n'est-ce pas, de la découverte des anneaux d'Uranus, de Neptune. Et Saturne, ça intéressait plus personne, et puis la NASA avait tout un tas de données numériques sur les anneaux de Saturne. Et donc il lui a proposé de continuer à farfouiller dans ces données, et donc elle a découvert, avec André Braïk justement, deux nouveaux satellites de Saturne. Vous voyez que on est loin d'avoir épuisé, bien sûr, la moisson de données que nous ont livrées les sondes spatiales, ainsi que maintenant avec les nouvelles techniques que Dominique évoquait d'observation au sol, et bien on va beaucoup plus loin, par exemple, que le télescope spatial, et on peut compléter très judicieusement les observations des sondes. Donc,
faut savoir quand même qu'il y a quelques siècles, en fait, c'était l'observation qui était en retard, c'est-à-dire qu'il y avait la théorie qui était derrière, puis qui disait, on devrait voir ça. Et maintenant, en fait, on observe, et derrière, c'est les théoriciens qui essayent de rattraper le retard pour expliquer les phénomènes qu'on voit. Et on parle même pas des thésards et puis des chercheurs qui, eux, passent leur temps à dépouiller les données. Et c'est vrai que, il y a un flot de données qui est récupéré, qui est assez dingue.
Et sans compter que les sondes y mettent du leur aussi, puisqu'on a entendu il n'y a pas plus tard que quelques jours que Pioneer 10, qui a été lancé il y a 30 ans maintenant, balbutie encore et continue à envoyer des signaux de par-delà les confins du système solaire. Donc ces signaux contiennent des informations qui vont être déployées aussi. Et ces quels signaux demanderont encore sûrement quelques mois ou quelques années pour qu'on en comprenne la signification.
Voilà. Alors bien sûr, la première raison de continuer à s'intéresser au système solaire, elle est scientifique, comme je viens de le dire. Mais en plus, la connaissance fine du système solaire, elle est très précieuse pour comprendre les autres systèmes planétaires, de même d'ailleurs que la configuration des autres systèmes planétaires est très précieuse pour mieux comprendre notre système solaire. Et alors il m'est venu une réflexion dans ma salle de bain ce matin, lorsque je me contemplais dans mon miroir, non pas de télescope, mais...
De salle de bain.
Eh bien, je me suis dit, au fond, quelle chance on a d'être situé avec une planète au plein milieu d'un système extrasolaire. Si on avait cette chance-là, on serait quand même tout de même bien content. Eh ben nous avons cette chance-là, puisque notre système solaire, il y en a beaucoup, des humains ou apparentés autour d'autres planètes qui contemplent le système solaire et qui diraient si j'avais la chance de vivre parmi ces planètes. Eh bien, nous l'avons, profitons-en.
Comme disait André Braik, en fait, il y a aussi le fait que plus on connaîtra le système solaire, plus on pourra connaître la Terre. Ce qu'il expliquait, c'est qu'en fait, un chercheur au sens large du terme, pour comprendre un phénomène, un objet, la majorité du temps, ce qu'il fait, c'est qu'il échauffe, il regarde ce qui se passe, il refroidit,
il expérimente,
il met un peu de produit, ça fait ça, etc. Le problème, c'est que les terriens sont très peu enclins à ce qu'on joue trop avec la Terre. Maintenant, l'écologie est à la mode, et c'est vrai en plus. Donc, je pense que les chercheurs aimeraient bien pouvoir chauffer la Terre pour voir ce qui allait se passer ou la refroidir. Et en fait, le problème, c'est que, en plus, c'est très difficile à faire, et puis en plus, on serait pas très content de le faire sur la Terre. Donc, une des solutions, c'est de regarder un peu d'autres planètes qui sont un peu plus petites, un peu plus grosses, un peu plus chaudes, un peu plus froides, et essayer de les comprendre pour qu'en fait, après, on comprenne mieux notre système solaire et par effet de conséquence, la Terre.
Alors, avant de reprendre sur le sujet lui-même de la conférence d'André Braik, qui donc s'appellera Les Enfants du Soleil. J'en dis juste un mot maintenant, puis on développera tout à l'heure. Qui sont ces fameux enfants du Soleil? Ce sont les planètes. C'est les planètes. Ce sont les êtres vivants. C'est-à-dire nous.
Nous, comme
poussière d'étoiles, descendants, fils, non pas du Soleil, parce que le Soleil et les planètes et nous autres, nous avons la même origine, le même nuage, la fameuse nébuleuse de Laplace, qui a donné naissance à la fois au Soleil, qui est l'étoile centrale, et aux poussières qui tournaient autour, et par accrétion, donc comme les boules de neige, ça donnait les planètes.
C'est vrai que c'est peut-être un abus de langage de dire qu'on est les enfants du Soleil. Le Soleil est en fait notre frère.
Oui, c'est ça, on est plutôt les frères et sœurs du Soleil, pour être précis.
La mère qui était là, entre guillemets, la nébuleuse qu'on appelle de Laplace, parce que c'est Laplace qui l'a bien parlé, la nébuleuse primitive, en fait, elle a enfanté le Soleil, les planètes,
effectivement surtout les enfants des étoiles qui ont existé avant le Soleil et qui ont permis au Soleil d'exister, et à nous autres aussi.
Voilà, mais maintenant, pour être précis, si le Soleil n'avait pas été là, la vie n'aurait pas émergé, n'aurait pas pris le cours qu'elle a pris.
C'est dans ce sens-là qu'on peut être aussi les enfants du Soleil.
Voilà, donc...
Alors la conférence, c'est un peu le livre, le fameux best-seller qu'a commis André Braik l'année dernière, qui s'appelle Les Enfants du Soleil, édition Odile Jacob. Donc vous trouverez ce livre à l'issue de la conférence, vous pourrez le faire dédicacer. D'où vient la Terre? Quelle est la fantastique histoire du système solaire, qui a 5 milliards d'années, rappelons-le? Venue de la nuit des temps, cette interrogation fondamentale, etc. Alors en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'André Braik, premièrement, est un très grand spécialiste du système solaire. Deuxièmement, il va raconter un peu ce qui est issu, comme il le dit, de la rencontre de disciplines scientifiques aussi différentes que l'astrophysique, la géologie, l'exploration planétaire. Et tout cela, pour la première fois depuis quelques années, ça se rassemble autour d'un consensus où les gens comprennent de mieux en mieux. Les géologues, d'ailleurs, à Nantes, vous avez un laboratoire de planétologie qui est composé essentiellement de géologues. Les géologues, autrefois, ils étudiaient les cailloux de la Terre.
C'est un peu ça.
Je suis un peu lapidaire.
Voilà, c'est un peu ça, oui, c'est vrai.
En fait, actuellement, ce sont des gens qui ont l'habitude d'examiner des structures, et les structures, elles racontent l'histoire. Et quand ils regardent les structures à la surface des satellites de Jupiter, par exemple, ce qu'ont livré les sondes Galileo, etc., ils voient très bien ce qui arrive dans les profondeurs de ces astres. Alors leur avis, leur œil, je dirais, est précieux. Alors évidemment... André Braik, ça a été aussi celui qui a vécu Hein, il est né en 1942, il est assez jeune pour un chercheur, mais il a participé, plus que vécu les grandes aventures du XXe siècle, il a participé à énormément de travaux autour des résultats des sondes spatiales. Il est sans arrêt aux États-Unis, c'est quelqu'un qui bouge terriblement, c'est-à-dire que pour le fixer sur une pellicule, il faut filmer en accéléré et puis il faut passer au ralenti, comme on dit.
C'est une bête de scène aussi. Hein.
C'est une bête de scène. Quand il passe des transparents,
ça ressemble à un film.
C'est à 24 transparents par seconde, donc sur l'écran vous avez un film. Enfin, c'est des anecdotes évidemment, mais qui résument un peu le personnage. Tout à l'heure, je vous donnerai encore quelques trucs drôles à son sujet. Alors, pour raconter André Braik, c'est beaucoup trop long, on va essayer de résumer.
Pour savoir, pour ceux qui le veulent, vous allez sur Internet, le site de la SAN, et vous avez sa biographie complète.
Oui, enfin, on a
résumé sa biographie.
Oh là là, oui, parce que
la biographie complète a fait 20 pages.
J'en ai 20 pages. Alors, en fait, dans ces 20 pages... Alors, d'abord, André Braik, évidemment, il est professeur. Hein, depuis 78, il est professeur. Il a été professeur d'université à Paris 7. Avant ça, il était maître assistant, etc. Bon. Et il est professeur dans des DEA, dans des maîtrises, un peu dans tous les niveaux. C'est un professeur très apprécié parce qu'il est extrêmement vivant. Il a beaucoup de culture. Hein, il connaît bien son sujet. Il encadre des doctorats, évidemment, des thèses. Et alors, il a énormément d'activités aussi dans la diffusion des connaissances. Il fait à peu près, on pourrait dire, entre 10 et 20 conférences par an. On pourrait dire à peu près une à deux par mois depuis les années 70. Il est venu à la Société Astronomie de Nantes en 82, il est revenu donc après dans les années 90, en 93, et même avant cela il était venu, je sais plus exactement, les années 92 je crois, ou 91. Il est revenu en 98 à l'occasion du colloque sur les planètes géantes qui était donc promu par l'Université de Nantes, le laboratoire de planétologie, auquel la SAN avait participé. Pour la partie grand public, on avait toute une exposition sur le système solaire. Et il y a eu deux magnifiques conférences à la Cité des Congrès, dont celle d'André Braik et de Cheikh Diarra, qui était à l'époque le coordonnateur des missions martiennes. Je peux vous dire que c'était époustouflant. Ces deux conférences ont laissé un souvenir mémorable. Braik bougeait sans arrêt. Il a énormément de choses à raconter. Il n'a jamais assez de ces deux, une heure ou deux heures. Oui. En 91 ou 12, on était au conservatoire. À minuit encore, il parlait. Évidemment, la salle se vidait, non pas parce que les gens n'étaient pas intéressés, mais parce qu'il y a des gens qui avaient des bus, parce qu'il y a des gens qui voulaient se coucher. Enfin, c'était épouvantable et à la fois c'était transcendant. Il y a des gens qui m'en parlent encore. Alors, il est bien sûr très souvent invité dans des émissions de radio.
Télévision aussi.
Il a fait une soixantaine d'émissions de radio en deux ans. Depuis 90. Il fait des cassettes vidéo, enfin... Donc, il fait beaucoup de télévision. Alors, ce qui est assez étonnant, c'est que à chaque fois que les gens le voient à la télé, ils viennent nous voir après, ils disent « Mais pourquoi ne faites-vous pas venir André Braik ?»
Il est déjà venu
plusieurs fois à la SAN.
Donc là, il passe le 6 juin, donc c'est pas peine de venir nous dire quand est-ce qu'il passe, là, c'est le
là,
6 juin.
Là, il passe
c'est
en mercredi, direct, voilà.
Dans deux semaines.
Alors, il faut savoir que il y a eu aussi une aventure, il a donc bien sûr fait des découvertes, hein. Il a découvert, alors qu'est-ce qu'il a découvert? Donc il a commencé par étudier des étoiles, etc. Ce qui l'a amené à des problèmes d'instabilité de systèmes de particules, mais non pas par choc élastique, c'est-à-dire par conservation de la quantité de mouvement, ce qui explique les systèmes de particules statistiques en gros, hein. Mais lui, il a étudié les chocs inélastiques. C'est justement les trucs où vous avez des interactions, notamment gravitationnelles. C'est-à-dire qu'il a étudié les systèmes d'anneaux. Hein, en gros. Alors ces systèmes d'anneaux, évidemment, avant on connaissait les anneaux de Saturne, ce sont les plus majestueux, ce sont les plus grands, les plus immenses, ils font à peu près 70 000 km de largeur, et ne font que 1 km d'épaisseur dans les parties à peu près les plus épaisses, ils doivent en faire 3 ou 4, enfin une lame de rasoir est à peu près 1000 fois plus épaisse que les anneaux de Saturne.
En proportion.
En proportion. Hein, c'est vous donner une idée.
C'est-à-dire qu'à l'échelle humaine, pour l'être humain, c'est impossible de représenter les anneaux à n'importe quelle échelle. C'est-à-dire que si vous mettez les anneaux de 8 mètres, par exemple, comme le télescope qu'on a parlé tout à l'heure, eh bien, il sera encore trop petit. C'est-à-dire que techniquement, il tomberait. Des anneaux physiques, mais c'est vrai que vous rendez compte, 70 000 km sur 1 km, ça fait.
Alors, ce qui est assez amusant, alors, je vous disais tout à l'heure, il y a une autre chose qui m'est venue. Alors, il a étudié ces anneaux de Saturne. d'abord dans, dans leur épaisseur, on pourrait dire, de face, mais il les a aussi étudiés à deux reprises lorsque ils étaient dans des configurations favorables. La dernière fois, c'était en 95. Il a essayé de mesurer l'épaisseur avec les télescopes justement de l'ESO. L'épaisseur des anneaux, c'était avec Bruno Sicardi, qui était un des co-découvreurs des anneaux de Neptune. Alors, juste puisqu'on parle de ces découvertes, il a donc découvert, dans les années 80, il a découvert les anneaux de Neptune avec William Hubbard. William Hubbard, il les a découverts en 84 et en 85. Alors, comment est-ce qu'ils ont découvert les anneaux de Neptune? Alors, d'abord, les anneaux de... Comment est-ce qu'on découvre des anneaux si on ne les voit pas, vous allez me dire? Mais si, on peut les voir, mais pour voir les anneaux de Neptune, il faut faire autrement. On ne les voit pas comme ça à l'œil nu. Ils sont trop fins, trop ténus.
Hein, vous pouvez remarquer, pour ceux qui ont vu et qui ont en mémoire les photos de Voyager, ouais, les Voyager de Neptune, on ne voit pas les anneaux sur les photos.
Voilà, on ne voit pas les anneaux. On commence à les voir en lumière rasante et puis dans des conditions particulières. Mais depuis la Terre, qu'est-ce qu'on a fait? Ce qu'on fait toujours quand on cherche un système d'anneaux autour d'une planète, on laisse la planète défiler naturellement, bien sûr, sur le fond du ciel. Si on a la chance qu'une étoile passe derrière la planète,
à ce moment-là... Si elle n'a pas d'anneau, elle s'éteint qu'une fois.
Si la planète n'a pas d'anneau, elle passe devant l'étoile, et puis l'étoile s'éteint et se rallume quand la planète est passée.
Donc.
Et là, ce qui s'est passé, c'est que l'étoile s'est éteinte une première fois.
Très court.
Touc. Elle a fait un clin d'œil, si vous voulez, pouf, elle s'est éteinte une deuxième fois avec la planète, et elle s'éteint de nouveau symétriquement
de l'autre côté.
De l'autre côté, lorsqu'il y a un anneau. Alors ça, c'était valable pour Uranus. Et alors, avec Uranus, ils ont passé pas mal de temps à balayer. Hein, ça y est, c'est toujours pareil quand j'ai mes notes. Voilà.
Faudrait qu'on mette une caméra pour plus simple. Vous verrez le tas de papiers qu'il a autour de lui. Il prend quasiment toute la table.
Ben oui, mais parce que j'ai ramené des articles originaux. Là. Bon. Alors, balayage après balayage, on a pu reconstituer avec une précision de quelques centaines de mètres la structure des 9 anneaux d'Uranus situés à 3 milliards de kilomètres de la Terre. Alors, ça, c'est donc ce qu'ils ont fait. Ils ont laissé la planète se balader sur le fond d'étoiles, et plusieurs nuits successives, ils ont regardé les phénomènes d'occultation.
Les extinctions d'étoiles.
Voilà, ça se passait jamais tout à fait exactement au même endroit. Ils ont comme ça reconstitué la structure de l'anneau. Alors, ce qui s'est passé pour Uranus, ça, c'était connu, les anneaux d'Uranus. Hein, mais donc ils ont affiné un peu ce qu'il y avait été découvert par d'autres. En revanche, pour Neptune, carrément, c'était les découvreurs. Alors, ce qu'ils ont découvert surtout, c'est qu'il y avait une seule occultation, c'est-à-dire qu'il y avait une étoile qui s'éteignait d'un côté.
Mais pas de l'autre.
Elle s'éteignait pas de l'autre, elle s'éteignait avec la planète. Et puis après, quand on arrivait de l'autre côté, on se disait, mais où il est l'anneau? Et ce n'était pas des anneaux, c'était ce qu'on appelle des arcs.
Un regroupement de débris, entre guillemets.
Ce sont des phénomènes de résonance. Alors, la dynamique des anneaux, en fait, elle peut être très compliquée si on essaye de la traiter de manière déterministe. Et vous savez, depuis Jacques Lascar, les méthodes de calcul du chaos, etc., c'est que, on sait maintenant, ce que, encore là, tout à l'heure, je lisais dans des vieux articles des années 80, dans la recherche, on disait que pour expliquer la stabilité de l'anneau, par exemple, le fait que l'anneau, il s'arrête à un moment donné, alors que par la diffusion, comme disait Stéphane tout à l'heure, on devrait voir ces milliards de petits cailloux, parce que qu'est-ce que c'est un anneau? Ce sont des milliards de cailloux, de glaçons, qui vont de la taille d'un kilomètre à quelques microns de poussière, en fait. Hein. Tout cela réparti sur un plan, dans le plan de l'équateur, et puis, pour expliquer que ça se maintient ensemble, ils essayent d'invoquer tout un tas de forces gravitationnelles, mais pas du tout. C'est un phénomène sont des phénomènes chaotiques qui finissent par définir des plages de probabilité de présence, qu'avait montré Jacques Lascar, et là, on a des trucs relativement stables. Donc, cette découverte des anneaux des arcs
de Neptune,
des années 84-85. Alors, ça lui a pas suffi, puisqu'en 92-93...
Peut-être dire quand même le nom qu'il a mis, il découvre trois arcs à Neptune.
Ouais, ouais.
Il les appelle Liberté, Égalité et Fraternité. Il s'appelle comme ça.
Oui, voilà. Pourquoi? Justement, moi, je te remercie de l'avoir signalé, parce que je voulais le dire, et puis j'étais plus tout à fait sûr si c'était bien Neptune. Mais bon.
Si, c'est Neptune, les trois arcs de Neptune.
Parce qu'ils ont découvert le 14 juillet, ou un truc comme ça. Donc ils ont appelé ça Liberté, Égalité, Fraternité. Et alors, il y a aussi Cécile Ferrari, cette fameuse étudiante. Ils ont découvert...
À l'époque.
En 92.
Oui, il faut quand même... 92, oui. Elle n'est plus étudiante maintenant.
Non, maintenant plus. Et alors, en 95, il remesure avec Sicardi, Bruno Sicardi, qu'on fera venir l'année prochaine, l'épaisseur, comme je l'ai dit, d'un autre Saturne. Donc voici quelques idées. Bien sûr, André Braik est président de nombreuses commissions
de la société
des spécialistes d'astrophysique. Enfin, il a une notoriété dans le monde scientifique qui est immense. Donc c'est un très grand personnage. Je ne peux pas vous donner la liste de ces 200 articles.
On va essayer de voir avec André Braik pour mettre sa biographie complète sur Internet. Pour l'instant, il y a juste le résumé.
Voilà, on va essayer de vous fournir
parce
tout
ça. Parce que c'est vrai que faut au moins le voir.
Donc pour clore, parce que je vois qu'on fait des signes désespérés, évidemment, je suis content parce que finalement, j'aurais beaucoup de choses à raconter, mais je vous ménage ça pour une autre émission parce que c'est un sujet trop vaste.
Donc là, en fait, ça va être sur le système solaire.
Ça va être sur le système solaire. Il va raconter les grandes découvertes dans le système solaire, c'est-à-dire les systèmes d'anneaux et d'arcs, qui ont maintenant des anneaux, il y en a pratiquement sur toutes les planètes géantes, sauf Pluton, le dernier truc qu'on a capturé, et puis peut-être il y en a d'autres. En tout cas, ça va être un sujet qui est en pleine actualité, et surtout, il y a plein de choses que vous ne savez pas encore sur le système solaire. Revenez, parce que vous allez vous régaler.
Alors, non seulement le sujet est intéressant, il est bien traité, et en plus, c'est un personnage très intéressant qui va le passer. Ça s'appelle Les Enfants du Soleil, et vous allez comprendre pourquoi on vous passe la plage musicale juste après. C'était Les Mystérieuses Cités d'Or par Apollo, donc c'est pour ça qu'on vous l'a passé, parce qu'il y avait à chaque fois Enfants du Soleil.
C'est bien tapé ça. Hein? Voilà.
C'est mon frère qui a eu l'idée, comme quoi les frères ça sert à quelque chose.
Mais oui, c'est un enfant du soleil aussi.
Tout à fait, comme nous. Donc on vous a passé ça, puisqu'on vous parlait de la conférence d'André Braik, Les Enfants du Soleil, que Daniel vous a présenté rapidement, puisque malheureusement, pour présenter le système solaire, André Braik, il faudrait presque des émissions complètes à eux tout seuls. Nous abordons à la conclusion de l'émission. Ceux qui ont gagné des places, il fallait répondre à la question « Combien y a-t-il de planètes dans le système solaire qui possèdent des anneaux ?» La réponse était 4. Il y avait Saturne, Jupiter, Neptune et Uranus. On vous a donné les réponses.
Dans l'ordre, donc Saturne, Jupiter, Uranus et Neptune.
Voilà.
C'était toutes les anneaux. Avant, il n'y avait que Saturne. Maintenant,
on est sûr qu'il y en a 4.
On a découvert.
Les grosses planètes, en fait, ont des anneaux. C'est un peu ça.
Grosses planètes gazeuses, oui, puisqu'ils font 120 000 km, 140 000. Et les 50 deux 000, dernières font 50 000, donc c'est 10 fois la Terre, quand même.
C'est quand même pas rien. Voilà, pour ceux qui ont le plus de précision sur la conférence, nous invitons à aller sur le site internet de la SAN, san-fr.com. Vous aurez notamment un plan d'accès, qu'a fait Dominique d'ailleurs, pour aller à la salle de Bretagne pour vous y rendre. Si. Pour
ceux 400, qui savent. Il y a 400 places.
Oui, il y a de la place, mais il faut quand même penser qu'il y a du monde qui va venir. Donc, c'est une conférence
qui est attendue.
Parce que
je voulais avoir la salle du conservatoire et je l'avais réservée à 3 dates, mais André Braik n'était pas libre.
Malheureusement, André Braik a un peu du temps très pris. Merci à tous, c'était plus ça. La prochaine émission, c'est le 11 juin. Et puis, comme d'habitude, à la Saint-Germain, grâce à Pulsan, on voit plus loin. Merci à tous.